Jeux vidéo.
17h10 et à présent on retrouve Dylan en direct. Dylan qui va nous parler de Descartes et d'une parabole,
oui,
si j'ai tout compris.
Stanley Parable, voilà. Parabole de Stanley. Je ne sais pas s'il travaille chez Canal+. Mais Stanley, bonsoir. Nous voilà donc de retour pour une nouvelle émission qui fait rêver. En parlant de rêve, matez la transition. Êtes-vous de ceux qui gardent de vibrants souvenirs de leurs rêves ou alors vous endormez-vous et c'est une sorte de téléportation temporelle vers l'heure fatidique du réveil?
Bah moi, c'est plutôt de l'ordre de la téléportation. En fait, je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, que c'est, quand je dors, bah c'est comme si j'étais morte.
Wow.
Parce que je me souviens de rien. Et je me réveille. Et c'est un miracle chaque matin. Et vous ?
Content que tu te sois réveillée ce matin, Mélissa.
Merci, Dylan.
Moi, étrangement, je m'en souviens beaucoup des rêves.
Okay.
Et même des fois, quand je me réveille, j'ai l'impression que j'y suis toujours.
Ok. Ça peut être plus ou moins désagréable dépendant du rêve que tu viens de faire.
Ouais.
Ouais, je peux imaginer.
Alex. Et toi, Alexandre ?
Moi, ça dépend en fait. Voilà. Il y en a certains que je m'en souviens et d'autres que je m'en rappelle pas.
Ah, ok.
Des fois, je m'en rappelle, c'est surtout parce qu'il y avait un truc très débile. c'est tout.
Ok. Moi, ça dépend. Je me réveille, je me souviens souvent de mon rêve, mais si je me le note pas dans la seconde, il disparaît dans les méandres de mon inconscient. Du coup, est-ce que vous auriez en tête un rêve que vous pourriez partager avec nous cet après-midi?
Non.
Non? Ah mais du coup toi non.
Ah ouais, mais c'était...
Alors rien de trop, on n'est pas dans un psychanalyste.
Oui, oui,
ce que tu veux partager,
c'est bon. C'en était un où j'avais 12 ans et que j'étais dans une sorte de monde entièrement fait en nourriture et en bonbons.
Nice, oui.
Et je me souviens surtout d'un crocodile en gélatine dans une rivière.
Wow. Okay. Sympa.
Non, ça va, ça va. Alex ?
Eh bien moi, c'était un rêve en rapport avec l'internat qui était dans mon lycée, qui était désaffecté. Et ouais, voilà, on avait l'habitude de l'explorer. Et là, c'était dans un cauchemar, en fait. Il y avait un de mes camarades d'école, du lycée, qu'on avait retrouvé décédé dans ce fameux internat dans le rêve. Et il était écorché dans une baignoire. Et à un moment, je me rappelle, je me suis réveillé en me disant « Mais c'est complètement con ce que je viens de dire, parce que en fait, la dernière phrase que j'ai dit avant de me réveiller, c'est « Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir !» Alors que le mec était mort, dans le rêve.
Non, c'est plein d'espoir, on ne peut pas t'en vouloir par rapport à ça. Alors moi, il faut savoir que, déjà, la ligne entre rêve et cauchemar est très floue chez moi. C'est-à-dire même dans le pire des cauchemars, mais chez moi ce sera un rêve, je vais être vachement, comment dire, j'ai vraiment une mentalité de gamer en fait, c'est-à-dire comment je me sors de là, qu'est-ce qui se passe, même dans un... Par exemple, je me souviens du coup d'un rêve où pour une obscure raison j'avais fini à Londres et c'était un mélange entre Destination Finale et une invasion de zombies, ok. Et ben dites-vous que j'ai passé un bon moment, c'est-à-dire que bon, les zombies, il fallait les repousser, donc du haut de ma... Comment dire, j'avais une mitrailleuse montée sur les marches du Panthéon, ou de bâtiment un peu à une allure grecque comme ça. Et voilà, et j'ai passé un sacré bon moment. Et j'ai plein d'exemples comme ça où des trucs horribles. Ben, en vrai, ça va. Donc voilà, c'est ma psyché. Le monde du rêve a naturellement inspiré de nombreux auteurs. Alors, je m'excuse pour la prononciation. Chuang Tzu, penseur chinois du 4e siècle avant notre ère, dans son Shuangzi, nous l'évoque dans la célèbre fable du rêve du papillon. Shuangzi rêva une fois qu'il était un papillon qui voltait et voltigeait alentour, heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qu'il était Shuangzi. Soudain, il se réveilla, et il se tenait là, un Shuangzi indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Shuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou un papillon qui rêvait qu'il était Shuangzi. Entre Shuangzi et un papillon, il doit bien exister une différence. C'est ce qu'on appelle la transformation des choses. Les rêves sont vraiment fascinants. Tantôt fenêtres ouvertes sur les parties les plus refoulées de nos âmes, tantôt diaporamas d'éléments hétérogènes juxtaposés à une organisation chaotique qui au réveil nous font nous dire « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ces espaces oniriques qui nous hypnotisent aussi bien qu'ils nous effraient, ces territoires inexplorables de l'inconscient qui n'ont de cesse de nous semer et de nous perdre dans leurs vallées, plaines et montagnes, ces lieux presque indomptables qui parfois nous font nous questionner sur notre existence même dans ce monde, et si nous aussi, nous n'étions que volutes de fumée onirique. C'est là la question de René Descartes, mathématicien et philosophe français du XVIIe siècle. Dans son œuvre « Les méditations métaphysiques », ayant remarqué qu'il avait dans ses jeunes années reçu de nombreuses fausses opinions, il se met à la recherche d'une certitude dans l'existence, d'une chose dont on ne saurait douter. Je vous la fais courte parce que c'était assez costaud, mais du coup, à la recherche de cette certitude, il émet plusieurs hypothèses, toutes infructueuses, Alors, il personnifie en le doute en la personne d'un mauvais génie qui serait aussi trompeur que puissant et qui, je cite, « emploierait toute son industrie à le tromper ». Eh bien, même face à une telle tromperie, il est possible d'être sûr d'une chose. En effet, il nous dit « Il n'y a donc point de doute que je suis s'il nous trompe. Je suis, j'existe, et nécessairement vrai toutes les fois que je le prononce ou que je la conçois en mon esprit. Que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. » Là voilà donc notre vérité indubitable, notre propre existence, dès lors que nous sommes conscients de cette dernière. Et c'est de ce fil rouge dont vous aurez besoin lorsque vous arpenterez les couloirs du monde de The Stanley Parable, car là aussi le malin s'attelle à se jouer de vous, à vous tromper, jusqu'à vous faire douter de votre propre existence, ou plutôt de l'existence du jeu en lui-même. Du coup, The Stanley Parable, c'est une fiction interactive, un walking simulator pour simulateur de marche, à ne pas confondre avec un déambulateur, développé par Davey Weldon et William Pugh, je sais pas, sorti le 17 octobre 2013 sur PC et Mac. Le joueur incarne Stanley, employé 427 d'une société. Son emploi est simple, presser des boutons au bon moment et uniquement ceux affichés par l'écran de son ordinateur. Le jeu commence lorsqu'un jour, Stanley ne reçoit plus aucun ordre sur son prompteur et qu'il apprend que tous ses collègues ont mystérieusement disparu. L'aventure est narrée par la voix hors champ omnisciente de l'acteur britannique Kevin Brighting. Celle-ci décrit les actions du joueur en brisant fréquemment le quatrième mur et en jouant avec les conventions habituelles de la narration vidéoludique et les habitudes des joueurs. Les bases ayant été posées, il n'y a pas grand-chose que je puisse vous dire là tout de suite. Je n'ai pas pu entrer dans l'univers du jeu. Mais je vois qu'il est là, j'imagine, je sais. En fait, j'ai l'impression que trouver l'histoire, ça fait partie intégrante du jeu. Du coup, ça me fait chier. Du coup, si vous êtes dans le délire, c'est cool. Mais sinon, mais je suis sûr que l'histoire existe quelque part entre les fournitures de bureau et l'arrogance du narrateur. Ah oui, parce qu'il faut en parler du narrateur. On va s'arrêter là-dessus. Attention, je vais être vulgaire, j'ai déjà un peu commencé. Sacré connard que ce narrateur. C'est-à-dire qu'il décrira avec arrogance et condescendance tout ce que vous ferez au cours de votre aventure. Bon, si on peut appeler ça une aventure, parce que du coup, on marche. La seule action qu'on peut effectivement... On peut fermer des portes, ok. De temps en temps, on peut choper des trucs. Et on peut s'accroupir. Ça sert à rien de se baisser. Si. Ah ouais ?
Ah oui.
Ok, mais j'ai raté. Mais, bah, c'est ça le truc, je suis pas rentré dans le jeu.
Tu as joué au jeu, Maxence ?
J'ai vu un let's play.
Ah.
C'est ça. Mais du coup, je sais qu'il y a tout un monde dans The Stanley Parable, mais je sais pas où le...
Tu t'es pas assez accroupi, peut-être.
Faut croire. Mais écoute, à mon grand âge, c'est ma hanche. Je suis trop vieux pour ces conneries. Du coup, sacré connard, que ce narrateur. Donc voilà, il va décrire ce que vous faites. Donc là, ça rend l'aventure aussi, enfin, aventure entre guillemets, aussi frustrante que drôle. En vrai, il est marrant, ok. Alors, il faut lui accorder. Et The Stanley Parable, c'est le genre de jeu... qu'on doit faire plusieurs fois pour avoir toutes les fins. Et si jamais, lors d'une de vos runs, une de vos tentatives, vous précipitiez sur des éléments que vous connaissez déjà, ben, le narrateur il va s'énerver en vous disant que vous êtes si pressé que vous ne lui laissez pas une petite minute pour faire son speech. Donc, allez, chez, connard. Mais vraiment, mon petit plaisir coupable, ça a été que c'est le placard à balais. Alors, du coup, le placard à balais. Du coup, dans un passage du jeu, vous avez accès à un placard à balais et le narrateur vous dit qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans et il s'attend à ce que vous partiez rapidement. Mais comme cet enfoiré n'hésite pas à se foutre de vous, vous vous dites que non, il doit bien avoir quelque chose et du coup, vous cherchez. Et en fin de compte, il s'énerve tout simplement. Il s'énerve vraiment, c'est super drôle et c'est tout simplement jouissif. Pour moi, ça a été un des seuls moments où j'avais réellement la sensation de faire quelque chose. Et paradoxalement, cette impression apparaît alors qu'on ne fait rien. C'est marrant, hein, mais pas aussi marrant que de se foutre de la gueule de cet enfoiré. Quand on y retourne lors d'une autre run, il est juste résigné. Il attend. Il attend que vous sortiez du placard. Lorsqu'on y revient une troisième fois, la porte est barricadée. Ils ont tué mon fun, les enfoirés. Donc la présence d'une narration aussi qualitative est réellement intéressante, mais de mon expérience du jeu, c'est tout ce qui m'a manqué. Voilà donc un autre jeu à côté duquel je suis passé, un autre jeu dont je n'étais pas pleinement la cible, un jeu dont le monde ne m'a pas pleinement absorbé. Bon, peut-être que ce sera votre cas, parce que je sais qu'il a un public, il y a des gens qui ont kiffé ce jeu, c'est peut-être moi le problème. Mais ouais, je sais pas, il m'a plus énervé qu'autre chose, quand j'y pense... j'ai l'impression d'être aussi énervé que Mélissa lorsqu'on parle d'un jeu dont on ne doit pas prononcer le titre.
Shadow of the Colossus.
Comme bien même je n'ai pas su entrer dans l'univers fantasmagorique de The Stanley Parable, peut-être que vous serez peut-être assez songeur pour vous laisser emporter et vous demander vous aussi qui du rêveur ou du papillon vous êtes. Enfin, si toutefois vous existez réellement.
Campus Bordeaux,
88.1. Et un grand merci, Dylan, pour cette chronique. Donc, tu ne nous recommandes pas de Stanley Parable.
Après, ça dépend. Si vous êtes dans le délire, il y a des gens qui le sont, mais ce jeu était juste frustrant pour moi. Par exemple, si vous faites le choix de quitter le jeu, de vous dire « fuck it, c'est bon, je vais pas y jouer », ben, il y a un trophée du jeu, donc c'est un jeu qui est très méta, très gros cerveau. Il y a un trophée du jeu qui consiste à ne pas jouer au jeu pendant 10 ans. Du coup, ben, si vous jouez pas au jeu… Ben vous êtes dans le même état qu'une personne qui veut platine le jeu, du coup qui veut faire le jeu à 100% de manière légale, entre guillemets. C'est chiant, c'était pas pour moi. J'ai arrêté les jeux vidéo.
Un jeu chiant et frustrant, tout comme le jeu Shadow of the Colossus que je ne vous recommande pas.
Ceci n'est pas mon discours, je me désassocie de
alors,
tout.
On rit beaucoup autour de la table, peut-être expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui ne suivent pas Grostik, puisque tout le monde n'écoute pas Grostik, mais écoutez Grostik si vous êtes disponible ce soir à 19h. Alors pour vous expliquer un peu, Shadow of the Colossus est un jeu dont on a parlé dans notre émission de jeux vidéo à l'antenne, et c'est un jeu qui me touche particulièrement car... Mon compagnon, qui lui aussi est à l'antenne sur Radio Campus, a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le jeu, mais surtout, il a aussi beaucoup souffert. Ouais. Et cet univers l'a happé et l'a transformé. Ouais. Et il était dans les méandres de Shadow of the Colossus pendant des semaines et des semaines. Donc, si vous ne voulez pas vous faire voler votre âme par un jeu vidéo, jouez à The Stanley Parable. Apparemment, c'est plus compliqué de rentrer dedans.
Soit c'est ça, soit c'est moi qui suis con. Les deux peuvent coexister.
Après, tu cherchais une histoire, mais il n'y a pas d'histoire. Tu t'as beau fouiller toutes les fins possibles, il n'y a pas d'histoire.
ça dépend de ton point. Enfin, je comprends le point de vue. C'est juste, par exemple, je sais qu'il y a une fin. Où vous cassez le jeu et du coup le narrateur il arrête d'être un connard et vous cherchez l'histoire avec lui. Ou il cherche le scénario ou ce genre de truc. Je sais pas, j'ai pas aimé le jeu.
Bon, en tout cas, merci Dylan. On espère que la prochaine fois tu parleras d'un jeu que t'aimes un peu plus.
On va essayer, écoute. Hein.